ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Yo, them things that I'm mixed up in a nothing, they complex, you know.
Excusez-moi, j'aurais besoin d'un conseil pour un vin. Cherche un vin surprenant, jeune, avec une finale émergente.
Oh, je travaille pas ici, madame, mais ce que vous cherchez, c'est le festival Vue sur la Relève.
Ah, oh, je ne connais pas celui-là.
C'est un festival qui va avoir lieu du 9 au 20 mai à Montréal. Il y a du théâtre, comme la pièce Petit crime contre l'humanité, de la danse, de la musique.
Wow!
Il y a aussi des parrains de soirée, Karim Ouellet, Valérie Blais, Gazeline. Le tout en collaboration avec Québécois.
Je vais en prendre deux bouteilles.
Mais madame, je travaille pas ici. Pour les billets, allez sur vuesurlarelève.com.
60 minutes de bonheur et de pas de danse, ça se passe tous les samedis à 14h sur choc.ca avec votre émission Du Coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs.
Cannes Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème, retrouvez Le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique.
What a day, ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez la photo média sur les ondes de choc.ca en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou. Cette semaine à l'émission, nous avons une nouvelle en fait, Alexandra Fortin, bienvenue. Nous avons également Roxane, j'oublie ton nom de famille, ma chère Roxane, je dis.
Exactement.
Bienvenue à l'émission Roxane. Nous avons également Édouard Germain. Ici, à la technique, c'est moi qui m'en charge aujourd'hui, mais on a Ryan Rumiger qui nous aide aussi en studio. Et il y a également Charles Lemieux qui s'est occupé de nous trouver des belles chansons pour aujourd'hui. Beaucoup de pain sur la planche. On va commencer tout de suite avec Roxane. Roxane, le thème de notre émission ce soir, c'est un petit peu, c'est comme un nouveau type de militantisme. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, en fait, justement, ce soir, on va parler du militantisme, comme tu l'as dit, puis, dans le fond, on va parler de, justement, la proportion que justement, le militantisme commence à prendre grâce aux médias sociaux, entre autres. C'est ça, on appelle la forme de militantisme qu'on va parler ce soir les stunts, dans le fond. Puis, avant de se lancer dans le vif du sujet, ça vaudrait la peine de donner une définition, si je peux dire, au militantisme. Celle que j'ai trouvée qui faisait le mieux le lien avec le sujet de ce soir, c'était dans le fond pour... c'est dans le fond la définition qui disait que, bon, c'est le militantisme, c'est une forme d'engagement politique, puis dans le fond, c'est relatif à une cause, puis les militants vont défendre cette cause-là pour la faire entendre, puis également pour l'imposer dans la société. Donc, c'est ça. Déjà, le fait de vouloir imposer quelque chose dans la société, ça peut être problématique, puis nous amener à nous poser des questions, mais c'est quand même bien représentatif de la réalité des stunts qu'on va parler ce soir. Donc, le premier stunt duquel je vais parler ce soir, c'est ça s'est passé en Angleterre, plus particulièrement à Londres. L'agence de publicité Mother London a dévoilé, dans le fond, sur le toit d'un immeuble, une immense poitrine, si je peux dire, un sein dénudé. Puis, c'était un sein gonflable qui était pour souligner, dans le fond, la fête des mères. On pourrait se demander pourquoi un sein gonflable à la fête des mères. Mais en fait, c'était pour, justement, mettre un certain accent sur la beauté justement de l'allaitement naturel, puis un petit peu déstigmatiser les pensées négatives autour de ça. Puis, c'est ça dans le fond, je sais pas si vous avez déjà vu sur Facebook peut-être des vidéos justement qui étaient pour sensibiliser les gens à la beauté de l'allaitement. Moi, j'en ai vu plusieurs au courant de l'année. Puis, c'est ça, souvent on voyait une femme, mettons, avec un beau décolleté, puis qui était regardée de façon agréable, puis on comparait ça justement à la réaction des gens qui voyaient une femme en train d'allaiter, même lorsqu'elle avait une couverture sur elle qui cachait ses attraits féminins. Même encore là, c'était toujours pas acceptable pour une bonne partie des gens, puis on pouvait voir qu'elle recevait des insultes et tout ça.
Oui, beaucoup de femmes sont victimes de préjugés. Je me souviens, il y avait Maï Paiement, je pense, qui avait fait la une d'un magazine québécois, je me souviens plus lequel, mais elle l'avait fait avec la poitrine dénudée en allaitant son enfant, justement, pour marquer un point fort là, pour promouvoir cette forme d'allaitement-là, puis déstigmatiser la chose.
Oui, effectivement, il y a beaucoup de gens aussi, beaucoup de femmes surtout, qui vont s'investir dans cette cause-là. Donc oui, c'est très d'actualité. Puis un des stunts qui a été fait, c'était justement dans le but de sensibiliser les gens à cette cause-là. La deuxième chose que je voulais aborder ce soir qui a vraiment marqué les médias dernièrement au niveau des stunts, c'était dans le fond une campagne qui s'est passée au Mexique dans le cadre, dans le fond, d'une sensibilisation contre l'harcèlement sexuel dans les métros. Ça fait longtemps déjà qu'on en entend parler. On voit que, bon, le gouvernement essaie d'instaurer des politiques pour contrer ça, le harcèlement sexuel, puis les agressions sexuelles qui se produisent dans les métros. Puis, ils ont décidé, dans le fond, d'installer un siège de métro qui représentait le corps d'un homme, tout moulé, incluant les parties génitales. Puis, bon, on s'entend que ça peut être quand même assez surprenant de voir ça dans le métro à la base. Puis, juste au-dessus, il y avait un écriteau qui disait que ce siège-là était réservé pour les hommes. Puis, bien sûr, plusieurs personnes se sont assises dessus ce siège-là sans regarder avant.
C'était très drôle de voir les réactions.
Exactement, oui, les réactions étaient filmées et mises sur un écran pour que les gens puissent voir justement la réaction à ça. Puis, à travers ça, ce qu'on voulait vraiment faire, c'était on voulait dans le fond faire comprendre aux hommes quel sentiment pouvait ressentir une femme lorsqu'elle était victime de ce type d'agression-là.
Qui est une invasion de l'espace privé, qui est une invasion de leur corps, dans le fond.
Totalement, oui. Puis, dans le fond, le but a été en quelque sorte atteint parce que, l'efficacité des stunts a été bel et bien révélée à travers ces deux exemples-là. Quand on regarde ça, on est au Québec ici, on en a tous entendu parler. Puis, c'est ça, on en a tous entendu parler. Alors que ça s'est produit à Londres, au Mexique. Donc, c'était tellement choquant, c'était tellement surprenant de voir ce genre de choses-là que ça nous a amené à, justement, en parler, puis à aborder le sujet. Puis c'est pour ça qu'on en parle aussi ce soir. Donc, effectivement, je pense, niveau efficacité, c'est réussi. Niveau éthique, par exemple, ça peut être une autre chose. Puis c'est quelque chose qu'il faut discuter aussi, à savoir, bon... est-ce qu'on remplit les normes éthiques en faisant ce genre de choses-là? Parce que c'est choquant, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Lorsqu'on considère qu'on est dans une société très diversifiée, multiethnique, avec des croyances religieuses différentes, avec des valeurs différentes, est-ce que ça va pas trop loin dans la façon de faire passer un message? Parce qu'on parle justement d'imposer cette idée-là dans la société. Puis moi, ce que j'essaie toujours de réfléchir afin de savoir si pour moi c'est éthique, c'est de me demander si quelqu'un avec le point de vue opposé au mien se posait justement, utilisait ce genre de geste-là pour passer son message, est-ce que ça me choquerait, est-ce que je me sentirais comme si on manque de respect ou comme si on est indifférent à mon point de vue ou quoi que ce soit. Puis si c'est le cas, à ce moment-là, je me dis, ben pour moi, c'est pas éthique. Puis bon, je suppose que pour tout le monde, la réponse va varier, donc c'est encore là dur de se prononcer là-dessus.
Oui, c'est sûr. Ben merci beaucoup, Roxane. On en reparlera plus tard dans l'émission.
Effectivement.
On va se quitter en chanson quelques secondes, pardonnez-moi le petit bug de cerveau. Donc on va écouter Keep Running de l'artiste Taichi sur son album Crawl Space. Et puis Charles Lemieux, notre DJ, me fait dire dans le fond que c'est leur premier album, que c'est un album indie pop vraiment smooth et qu'ils ont une voix sublime. On écoute ça. Vous écoutez toujours La Photo Média sur les ondes de choc.ca. Donc, en deuxième partie d'émission, Édouard, toi, tu nous parles aujourd'hui de la Russie, plus particulièrement d'une photo de Vladimir Poutine qui a fait jaser.
Oui, en effet, en fait, la photo en question, ça s'appelle Poutine Clown Game. bon, c'est une traduction, Gay Clown en anglais. C'est une, la photo, en fait, que d'ailleurs, on a publié la photo média sur, sur Facebook.
Vous irez voir, oui, vous irez liker notre page aussi, n'oubliez pas.
Ah oui, on n'oublie pas. Ça va ensemble, en fait. Cette photo a circulé depuis un petit moment sur les réseaux sociaux, mais elle a été popularisée, en fait, en 2013, à, lors des protestations qui ont eu lieu en Russie.
Des protestations en Russie. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails? Parce que j'avoue qu'avec Poutine, j'ai pas mal perdu le compte des protestations que le pays a connues.
Ouais, non, j'avoue. En fait, là, pour vous faire un petit résumé, là, c'est par rapport à une loi qui avait été votée par le Parlement russe en 2013, comme je vous disais, ça avait le but d'empêcher la distribution aux enfants d'informations traitant d'homosexualité. On parlait aussi de bannir la propagande de relations sexuelles non traditionnelles. Bref, c'est une loi qui cherchait à valoriser les valeurs, si vous voulez, orthodoxes, traditionnelles russes contre les méchantes valeurs occidentales qui viennent corrompre la société russe, aux pauvres sociétés russes ici. suite à cette loi-là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a plusieurs manifestations qui ont éclaté un peu partout en Russie, mais aussi un peu partout dans le monde. Une des images, on parlait des stunts dans la dernière chronique, ben une des images qui ont été reprises, c'était une image justement de Vladimir Poutine maquillé avec le fond en arrière d'un drapeau de la fierté gay. Donc voilà, puis on pouvait lire dessus Stop homophobia, en fait, qui était écrit sur Poutine.
Quand on connaît l'importance qu'accorde Poutine à son image, on peut imaginer qu'il n'a pas été très enchanté de voir sa photo sur fond d'un drapeau de la fierté gay se promener un peu partout sur les réseaux sociaux.
Non, il n'y a vraiment pas. En fait, cette photo, elle s'est retrouvée sur la liste des matériaux extrémistes interdits. Pour être très précis, si vous voulez, c'est le numéro 4071 de cette dite liste.
Du matériel extrémiste, tu
ouais,
dis.
Ouais.
Comment tu définis ça, toi, du matériel extrémiste?
Je vais pas non plus donner mon opinion. Personnellement, je sais pas, mais le gouvernement russe, lui, il l'a vraiment défini. Bon, il l'a défini de manière large, là, mais au niveau de, il y a eu un règlement qui a été voté en 2013. On essayait de resserrer le matériel qui circule sur le web. Avoir un contrôle sur ce matériel-là. On parlait ici de sites avec du contenu illégal qui inciterait les lecteurs à, bon, là, il y a plusieurs points, manifester de manière violente, commettre des activités extrémistes ou terroristes, promouvoir des activités, en fait, qui exacerberaient des conflits déjà existants, des conflits que ce soit nationaux ou religieux, ou qui inciteraient la population à participer à des événements publics qui sont en violation avec l'ordre établi.
Dans le fond, Poutine critiquait la clique du plateau.
Ouais, on peut le voir comme ça, si tu veux. mais la loi, en fait, c'est ça, elle s'appliquait, puis oui, on va parler de la clique du plateau ici à Montréal, elle ne s'appliquait pas juste aux images qui étaient en Russie, mais aussi à ce qui venait d'ailleurs. Donc, il y a même un de ses ministres qui avait dit, on peut très bien envoyer cette notification-là en anglais aussi, pas juste en russe. Donc voilà, ça a dérapé assez rapidement parce que c'était pas besoin d'un juge, c'était seulement quelqu'un au gouvernement qui décidait quand il fallait retirer une image ou pas. Puis ça a dégénéré assez rapidement, ce qui fait qu'aujourd'hui, là, ça j'ai lu ça dans le Washington Post, il parlait qu'il y a des gens qui avaient déjà même été envoyés en prison pour avoir mis la mention « j'aime » sur une photo qui était bannie. Là, savoir si c'est vrai ou pas, bon bref, c'est ce qui était dit.
Le Washington Post exagère de temps en temps, mais bon.
Ça se peut. Mais bon, revenons à l'image.
Sous rush.
Revenons à l'image de Poutine, en fait, parce que le gouvernement, il n'a pas publié exactement la photo qui est frappée par cette censure-là. Il a seulement écrit une directive, puis là, je vais vous la lire, là, c'est « L'interdiction concerne l'image d'une personne ressemblant à Vladimir Poutine, donc toute personne qui aurait une ressemblance avec Vladimir Poutine, avec les lèvres et les yeux maquillés, sur laquelle on peut lire des messages anti-gays qui supposeraient l'orientation sexuelle non standard du président russe. » Donc, on se doute que c'est celle-ci dont je vous parle depuis tantôt, mais il y a quand même une certaine confusion du côté des médias russes, à savoir de quelle photo exactement on parle.
Ouais. D'ailleurs, comment est-ce que les médias russes voient cette interdiction-là de diffuser une image? Ils doivent être habitués, je sais pas.
En fait, j'ai fait un petit tour d'horizon, puis là, on se rappellera, pour ceux qui ont écouté l'émission de la semaine dernière, je vous ai parlé de mes petites connaissances en allemand, mais du côté du russe, c'est nul, mais complètement nul. J'ai aucune connaissance du russe, donc c'est assez limité, la petite recherche que j'ai faite. Mais il y a des sites comme Russia Today qui sont en français aussi. C'est un site qui est un peu plus, par les plusieurs occidentaux qui disent, là, c'est un site qui est pro-Poutine, qui est une espèce de propagande, ce site-là. Mais bref, j'ai pas été en mesure de trouver de l'information par rapport à ça sur Russia Today. Ouais. Mais bon, le site, on peut lui donner le bénéfice du doute. Là, on pourrait trancher autour de la table. Je sais pas ce que vous diriez, mais bon, il y a eu d'autres nouvelles en Russie à ce moment-là. Il y a eu l'attentat du métro à Saint-Pétersbourg. Puis il y a eu également bon l'attaque en Syrie. Mais bon, après ça, est-ce qu'on leur donne le bénéfice du doute ou pas? Il y a d'autres médias qui en ont parlé, de toute façon. Le média russe gordonois.com, pardon mon russe encore ici, pardonnez-moi mon russe, on pense en fait que la photo en question serait serait celle de Poutine avec le premier ministre russe Dmitri Medvedev. Encore une fois, je m'excuse pour mon russe.
Medvedev.
tous les deux maquillés et qui tiendra ensemble un bouquet de fleurs. Bon. Là, encore une fois, la photo, le journal a montré la photo disant que c'était ça qui était frappé par l'interdiction. Mais vous voyez, du côté du Moscow Times, qui est un journal anglais, en fait, qui est plus d'un point de vue occidental, on parle vraiment de la photo que nous, on a publiée sur notre compte comme étant la photo qui est bannie. Mais l'espèce de conclusion que j'ai faite autour de ma recherche pour la chronique, c'est, je me suis dit, il y a un flou ici qui est entretenu, puis j'ai l'impression qu'il est profitable pour la Russie parce que, au lieu de montrer l'image de celle-là, on veut pas qu'elle soit publiée, on donne une espèce de description sommaire, puis à ce moment-là, on s'entend que si on est pour partager cette image-là, ben, tu sais, si tu sais pas si c'est celle-là que tu peux partager ou si c'est pas celle-là que tu peux partager, ben, tu vas peut-être être plus réticent à le faire. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que nous, à la Photomédia, on n'a pas eu peur de la partager, puis on vous invite à faire de même.
Faites de même, puis ayez pas peur si jamais il y a des Russes qui vous poursuivent en justice, ben, vous vous débrouillerez tout seul, en fait. Merci beaucoup, Édouard.
Ça fait plaisir.
Notre troisième chroniqueuse, et non la moindre, Alexandra Fortin. Première chronique ce soir à l'émission.
Oui, en
bienvenue.
Effet. Bien, merci beaucoup.
Donc, de quoi nous parles-tu ce soir?
On va parler d'une des diverses tactiques des femmes militantes. Donc, je vais parler aujourd'hui plus, en fait, de l'image, de la photo, de la puissance, hein, que les photos ont de frapper l'imaginaire des gens, puis de marquer le temps. Donc, c'est ça. On va se l'avouer, dans les médias aujourd'hui, les réseaux sociaux, l'image est très, très cruciale. En fait, on désire attirer le nombre maximal de spectateurs sur nos chaînes télévisuelles, d'avoir le plus de likes, le plus de partages sur nos pages Facebook, Twitter, Instagram. On peut toutes les nommer. Donc, ce qui est intéressant avec l'image, en fait, c'est que ça parle. Hein, c'est ça, comme je l'ai dit tantôt, ça permet de recréer une situation à laquelle tu n'étais pas. Donc, qui marque le temps. Donc, un événement est éphémère, mais une photo ne l'est pas. Donc, c'est ça. En plus, l'intérêt avec une photo, ben, tu sais, c'est qu'on dit une image vaut 1000 mots. Puis certaines femmes militantes, elles ont compris, comme plusieurs militants dans bien des causes, ont compris cette capacité-là. Donc,
est-ce que tu as un exemple de militante?
Oui, en fait, j'en ai plusieurs. Dans le fond, il y a eu quelques événements la semaine dernière, puis dans le temps aussi, on peut penser peut-être à Jane Rose Cashmere, dans le fond, une lycéenne américaine qui tenait une fleur devant une armée complète de soldats américains pour contrer, dans le fond, l'implication américaine dans la guerre au Vietnam, une grande manifestation de 70 000 personnes, qui est aujourd'hui un symbole ben, de la manifestation non violente. Il y a également dernièrement, un peu en 2012, des femmes déguisées en suffragettes qui ont milité devant le Parlement britannique pour des compensations salariales, ou encore le groupe Femen, qui ont, elles aussi, de nombreuses photos à leurs actifs, qui ont appuyé, qui ont illustré leurs gestes politiques, puis qui ont également frappé l'imaginaire des gens avec des photos très, très poignantes.
Oui, le mode d'action de Femen, c'est de se dénuder la poitrine.
Oui, exactement.
Donc, c'est un mode d'action qui choque, un peu comme ce dont on parlait dans la première chronique avec Roxane. C'est un mode d'action qui choque.
Oui, ça attire beaucoup l'attention aussi. Parfois, il y en a qui peuvent ne pas être intéressés par le sujet, mais que, bon, des seins de femmes peuvent... Ah, je vais être curieuse, c'est quoi cette photo-là? Je vais regarder. Ah, il y a une course derrière ça.
Oui, puis il y a toutes sortes d'autres questions éthiques qui peuvent être soulevées. Ou, là,
en effet, comme on a parlé tantôt avec...
avec Roxane.
Avec Roxane, exactement. Mais c'est ça. Dans le fond, la semaine dernière, en fait, samedi passé, le 8 avril, il y a eu une manifestation à Birmingham, une ville en Angleterre, une petite manifestation d'une centaine de personnes, en fond un groupe fasciste hein, de l'extrême droite qui est venu manifester et qui, au cours de la manifestation, perturbait certaines femmes musulmanes avec le port de voile. Puis, dans le fond, pas juste, ils ne les perturbaient pas simplement, ils les agressaient, ils les harcelaient. Il y a une femme, en fait, qui a été photographiée lors de ce moment-là. Puis la photo, elle a été partagée plus de 17 000 fois. Et elle est aujourd'hui un symbole de la défiance face à l'extrême droite. Cette femme-là, dans le fond, la photo, ce qu'elle montre, c'est une femme complètement détendue, le sourire aux lèvres, qui regarde un homme complètement agressif, dans le fond, de l'extrême droite. Puis, dans le fond, on peut juste remarquer, dans le fond, qui est fort sur cette photo-là. C'est qui a réellement une puissance? C'est qui est supérieur, si je peux dire ce mot-là, entre guillemets, par rapport au combat qu'il mène puis aux tactiques qu'il utilise? Donc, clairement, je pense que lorsqu'on utilise les idées, une critique rigoureuse, puis peut-être des mouvements plus pacifiques, on pourrait en rediscuter dans une autre chronique, là. Il y a la diversité des tactiques, comme j'ai dit tantôt. Mais là, l'homme, clairement, ici, qui est très, très violent pour aucune raison nécessairement, dans le fond. C'est pas très, très justifié. Ou du moins, c'est mal justifié, parce que clairement, il y a une justification derrière ça. Puis dans le fond, ben c'est ça, ça a été partagé des milliers de fois, puis ça a démontré toute la force de la femme dans cette situation-là. Je trouve que c'est très, très beau à voir. Puis il y a également un autre événement dont j'aimerais parler, la statuette de la jeune fille, Fearless Girl, qui a été placée devant le fameux taureau de Charging Bull, à New York, le 8 mars, journée de la femme, bien sûr. Cette petite statuette-là, elle représente, dans le fond, le combat féministe qui s'affronte devant le grand taureau très mythique. Donc voilà, mais sa présence a été très, très critiquée par des hommes, dont le créateur du fameux bovin, qui ont déploré sa présence en expliquant, dans le fond, que ça détruisait l'optimisme du taureau, ça le plaçait dans une position de force négative et de menace, hein, on veut vraiment pas ça. Non, non, non. Parce que, dans le fond, ce taureau-là, ce qu'il représente, hein, à l'origine, c'est la combativité des Américains après le crash boursier de 1987, disons. Hein? Mais quel combat qui est plus important entre ces deux-là? Est-ce que c'est la lutte des femmes ou la survie des acteurs financiers lorsque le capitalisme, ben, il crache? Hein? Fait que, clairement, nos valeurs vont répondre pour cette question-là. Le maire de New York, lui, a répondu quand il a vu ces tensions-là avec... en disant « Certains hommes n'aiment pas les femmes qui prennent leur place et c'est précisément la raison d'être de la Fearless Girl. » Donc, je trouve que
un
c'est...
Un maire qui se tient debout.
Ben oui, hein, au moins.
En concluant...
oui, donc voilà. Donc, je pense que c'est de notre devoir en petite ou petit militant, militante, de partager ces photos-là pour donner un peu espoir, dans le fond, puis faire diffuser un message qui a lieu d'être. Donc, voilà.
Merci beaucoup, Alexandra Fortin.
Merci beaucoup.
C'était malheureusement tout le temps dont on disposait. Je remercie encore une fois Roxane Joly, Édouard Germain et Alexandra Fortin. Vous écoutez la Photomédia sur les ondes de choc.ca en compagnie de votre animateur, Émilien Roscanou. On se laisse en chanson avec « Amour d'été » de l'artiste Françoise.
Laissez-en.